Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, c'est parti pour l'Intégral Sport. Un magnifique week-end de sport avec des températures dignes d'un plein été. On va se régaler cet après-midi avec deux temps forts. Le tennis avec la suite des internationaux de France sans français évidemment, mais ça on est habitué. Roland Garros qui nous attend, la terre battue est bien sèche. Et puis juste à côté de Roland Garros, c'est le début des barrages du top 14 pour désigner ceux qui auront le redoutable privilège d'affronter Toulouse et La Rochelle la semaine prochaine en finale à Saint-Sébastien. On va commencer d'ailleurs tout de suite par ce match de rugby parce que c'est une Formule 1 contre un kart. C'est le plus vieux derby du championnat de France et Paris contre la banlieue. C'est le Stade français face au Racing. Pour commenter cette rencontre, Julien Richard et Pierre Abadan qui ont mis leurs lunettes de soleil. Il fait un temps magnifique sur la capitale. Bonjour les garçons, comment ça va?
Salut Christophe. Salut à toutes et à tous. Ouais, effectivement, temps splendide. Et on n'a pas mis le casque. Le casque qu'avait mis Lolo Travers, Laurent Travers, l'entraîneur du Racing 92 à l'issue, justement. Tu fais référence au Formule 1, à la Formule 1 et aux cartes. Le dernier match, la dernière rencontre ici à Jean-Bouin, c'était le Racing qui était venu s'imposer. Et dans la semaine, il s'était servi d'un mail envoyé par le service communication qui paraissait un peu anodin et dans lequel il dit, rappelait le score du match aller, 48 points passés à l'Arena, et dans lequel il parlait de la fin contre Carte, et Laurent Travers après la victoire était venu avec un casque aux couleurs du Racing 82.
L'humilité c'est une gageure importante au rugby, et là il s'était fait sanctionner direct le Stade français après leur exploit qu'ils avaient réussi à l'Arena, et donc ils se sont fait ramener à la réalité. Mais les compteurs sont à zéro pour ce match qui démarre déjà sur un rythme assez conséquent, et pour l'instant le Stade français est dans le camp du Racing.
3 minutes de jeu, Christophe, 0-0.
Un match très particulier, Pierre, tu en as discuté un paquet de ces derbies entre ces deux équipes qui sont à la fois voisines mais vraiment rivales. Je me disais, c'est le plus vieux derby du championnat de France, et à la clé de cette rencontre il y a une place en demi-finale. Autant dire que ces deux clubs visent la demi-finale et visent même la finale, même si ce sera compliqué. Et est-ce que tu as un petit pronostic? Est-ce qu'une équipe te semble plus forte que l'autre?
En toute objectivité,
maillot rose.
J'allais te dire que les deux équipes ne sont pas très en confiance malgré leur bon classement, puisqu'elles sont en phase finale, mais elles ne sont pas forcément dans une dynamique très très positive. Donc c'est difficile de dire. Après, le Stade français a l'avantage du terrain, même si on a vu dans la saison régulière que ça ne servait pas à grand chose. Je pense que le match va être très serré. Peut-être, je ne suis pas certain qu'on voit un match avec beaucoup d'envolées. Mais peut-être que l'avantage du terrain va profiter au Stade français.
C'est une place en tout cas pour les demi-finales, pour affronter le Stade toulousain. C'est un derby en plus, évidemment, ça rajoute du piquant à cette rencontre. Et on aura peut-être du côté du Stade français l'esprit à 2015. Souvenez-vous, avant le titre de champion, le dernier titre du Stade français, eh bien, en barrage, le Stade français qui était 4ème du top 14 avait gagné face au Racing qui était 5ème. C'est la même configuration cette année. Le Racing s'était vengé entre guillemets en 2021, en barrage là aussi. Mais voilà les données. Il y a plein d'histoires qu'on pourra raconter tout au long de ce match, des adieux à venir, des dernières et de l'engagement. Déjà on le voit dans cette rencontre après 4 minutes et 40 secondes de jeu, 0-0, mais on est en train de regarder à la vidéo parce que ça s'est déjà un peu chauffé dans la moitié de terrain du Racing.
Contre-rug de Kremer, ouais. Et l'arbitre est en train de regarder ça à la vidéo.
Je pense que le flanqueur parisien risque de prendre le numéro 6 là.
Ouais, Marcos Kremer, l'Argentin, ouais, qui est revenu de blessure et qui est plutôt connu justement pour son engagement très limite. C'est un combattant. Il jouera à Clermont la saison prochaine.
Exactement. Très 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 bon joueur, très très rugueux. Alors là, parfois à la limite de la règle, on va le revoir, mais il y a eu. Le joueur du Racing.
Il est entré au casque. Il a été déblayé au casque. Donc j'ai peur qu'il y ait un petit carton jaune.
Il n'y a pas de contact, je crois, quand même, avec la tête.
C'est un contact sur l'épaule, apparemment. Ouais. De Wokim. Alors est-ce qu'il y avait quelqu'un dessous?
Oui, il y avait peut-être quelqu'un dessous. Il y avait peut-être une tête sous Cameron Wokim.
Je crois que c'est Finn Russell qui est dessous.
Ça peut valoir très cher cette histoire. Ça peut valoir très cher. On rappelle, seulement 5 minutes de jeu, 0-0 entre les deux formations.
Mais il peut prendre. Il va prendre un rouge, je pense.
Ouais.
Contre-tête.
On va attendre la décision de l'arbitre. Les, visionnage des vidéos s'accumule.
Pierre Brousset, l'arbitre de la rencontre, est au pied de l'écran géant du stade Jean Bouin avec son arbitre assistant. Il est en train de discuter, il a la main à la poche. C'est sûr, il y aura un carton. Alors de quelle couleur il va être ce carton?
Ce serait terrible, un carton rouge. Ouais,
5 minutes de jeu. Hein. Ouais. Il appelle Marcos Kremer.
Ouais, il a mis la main à la poche.
Et il explique à Paul Gabriel, le capitaine, l'action et carton rouge. Carton rouge, ouais, c'est terrible. Vous entendez Jean Bouin gronder d'entrée de jeu. Le coup terrible pour les roses, les soldats roses du Stade français. 4 minutes 50 secondes de jeu et ils vont se retrouver à 14 contre 15 pour la fin, l'ensemble on va dire même de cette rencontre, quasiment de ce barrage face au Racing. C'est un tournant inattendu évidemment, Pierre, et un gros coup dur.
Ouais, bien sûr, c'est pour le Stade français qui avait plutôt bien réussi son entame de match, même s'il y a toujours 0-0. Évidemment, un match très différent qui va commencer. Alors on a vu des équipes, et le Racing la première en finale du top 14 gagner à 14 contre 15.
Mais Maxime Machno s'est fait.
Voilà, c'est une débauche d'énergie encore différente. Évidemment, ça risque
de avec la chaleur, le Racing qui risque de peser sur les organismes. Et on a vu Thomas Lombard très déçu, évidemment. Il a le masque, tout comme Gonzalo Quesada, l'entraîneur de ce Stade français. Bref, carton rouge à 14. Les Parisiens vont devoir affronter 15 Racingmen. Ça va être dur. 0-0, on revient vous voir dans quelques minutes, messieurs, pour la suite de ce match. Mais ça part très mal pour les Parisiens. On va donc rester dans le même coin de Paris, dans l'ouest parisien. On va aller faire un tour à Roland-Garros, où là aussi il fait très beau, très chaud cet après-midi. Il n'y a pas eu de pluie une seule fois depuis le début de la quinzaine. C'est incroyable, c'est un miracle. Eric Salio, en Bermuda, évidemment, lunettes de soleil. Salut Eric.
Salut Christophe, salut à tous.
C'est vrai, c'est rare quand même de voir.
C'est rare, et on se demande pourquoi ils ont fait un toit sur le Limbien. Non, mais non, c'est toujours comme ça, de toute façon. Il n'est pas utilisable, cet année.
C'est vrai que depuis qu'il y a le toit, il n'y a pas eu une seule journée de pluie.
Mais c'était le cas à Wimbledon, je me souviens, quand le toit était prêt, la première année où il était opérationnel, ils ne s'en sont pas servis. Donc là, tu dis, oh là, ils ont dépensé des livres, des millions de livres sterling pour rien.
Ouais, bon, ça, Christophe, ça permet aussi de faire des
matchs. Je peux te donner une info importante.
Ouais, vas-y.
C'est qu'aujourd'hui, le programme, il n'est pas génial. Je ne vous le cache pas. Mais alors, demain, tenez-vous bien, ceux qui ont des billets en journée sur le central, c'est bingo. Pourquoi ? Parce que vous aurez le match entre Alcaraz et Musetti, et vous aurez également Novak Djokovic contre Varia. Ça veut dire quoi, Christophe ? Ça veut dire qu'Amélie Mauresmo a décidé de programmer un match féminin demain soir. Le premier de la quinzaine qui opposera Arina Zabalenka à Sloane Stephens. Donc ceux qui ont des billets en night session, ils verront un match féminin.
Très bien, nous devions faire un débat demain matin dans les grandes gueules du sport, justement en nous disant c'est quand même scandaleux qu'il n'y ait pas un seul match féminin programmé.
Ils se doutaient que vous faisiez un débat.
Voilà, ils ont eu le conducteur avant nous et donc on va changer de sujet du coup. Bon, mais c'est important quand même. C'est important. Mais c'est vrai que pour les diffuseurs, un match féminin, c'est un match plus court normalement, puisque
c'est une évidence gagnante.
Donc c'est vrai pour les diffuseurs.
Donc, mais il y aura peut-être un sujet de réaction à faire demain soir auprès des spectateurs. Imagine le match, parce que Zabalenka, c'est une qui joue très très vite, on le sait, qui frappe très fort. C'est un match qui peut éventuellement durer une heure et quart. Hein. Donc là, on aura peut-être un micro-trottoir à faire avec les spectateurs mécontents. Pourquoi pas une manifestation, un envahissement de terrain comme en Ligue 2, pourquoi pas.
Bon, on va rester calme, on est au tennis, même si c'est passé pas mal de chance cette semaine, pas mal de choses hein, avec Taylor Fritz qui sera d'ailleurs sur le court tout à l'heure. On va avoir guetter la réaction du public. Ce sera en troisième match sur le Langlen.
Retrouver le Langlen. Ouais.
Bon, on en est où là? Runeux, je vois.
Alors, Anthony l'a dit tout à l'heure, premier qualifié pour les huitièmes, c'est Casper Ruud qui s'est débarrassé en quatre manches du chinois Zhang. Et actuellement, on a plusieurs rencontres intéressantes. Sur le central, donc, un match qui a débuté à 13h, puisque comble de malchance, on a eu un forfait, celui de Elena Rybakina, qui était l'une quand même des favorites, celle qui a gagné le Tour de Rome. Elle était fiévreuse, donc elle ne s'est pas présentée sur le court. Donc le central, il n'y a que deux matchs. Et Holger Rune, pour l'instant, maîtrise totalement la situation face à un qualifié argentin, Gennaro Alberto Olivieri, 231e mondial, 6-4-3-1 pour le Danois. Nishioka Sebotwild, ça c'est un super match. Sur le court Simone Mathieu, il y a 2-7-1 pour Sebotwild, le Brésilien, le tombeur de Daniil Medvedev. Et puis le match qui a débuté il y a environ 5 minutes sur le Langlen, c'est un match 100% féminin entre deux teenagers. Mira Andreeva, la petite pépite russe, et Coco Gauff. C'est Coco Gauff qui est au service, elle est menée 1-0.
Très bien. Là, c'est un match entre jeunes filles et notamment cette Andreeva qui régale tout le monde depuis le début de ce tournoi. Bon, ben voilà, un beau programme quand même. On va pas se plaindre, hein, évidemment, ceux qui ont acheté les billets pour demain.
Non, mais c'est incomparable avec le programme de demain. Tu es d'accord quand même.
Écoute, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Demain, on va se régaler et on sera encore ensemble tout au long de l'après-midi. On revient te voir tout à l'heure. Merci, Eric. Il est 14h11. Un tout petit. Oui, d'abord, un petit jingle, là. Ben oui.
Votre rendez-vous tennis avec Prime, diffuseur officiel de Roland-Garros.
Avant d'ouvrir notre mag olympique en route pour Paris 2024, un nouveau point sur le rugby avec ce match entre le Racing et le Stade français. Attention, une attaque des Racingman, messieurs.
Avec la sanction immédiate, le premier essai de la partie marqué par les joueurs du Racing 92. Juanimov, l'Argentin qui vient marquer le premier essai 5-0, 10 minutes de jeu. Le Stade français réduit à 14 contre 15, carton rouge, vous le savez, de Marcos Kremer, reçu après à peine 5 minutes de jeu. Et derrière, le Racing qui se met en route pour aller inscrire le premier essai de la partie. Transformation à suivre pour alors qui, parce que Finn Russell, c'est Antoine Gibert, parce que Finn Russell est sorti sur protocole commotion, hein, Pierre.
Oui.
Et on a vu aussi les images là, terribles de Marcos Kremer, l'Argentin, en larmes dans le vestiaire du Stade français. C'était son dernier match ici à Jambouin, et il le termine avec un rouge après 5 minutes de jeu.
Ah oui, c'est malheureusement, il aura pris beaucoup trop de cartons, et c'est sûr que l'histoire se termine pas bien pour lui. On va voir quelle sera l'issue du match, mais ça part pas très bien. Effectivement, premier lancement de jeu derrière une mêlée du Racing, très propre, mauvaise défense du Stade français au niveau des ailiers, et derrière une sanction immédiate avec toujours l'impeccable Juanimov et la transformation en direct de Gibert.
Et la transformation qui... est-ce qu'elle est passée? Oui, elle est passée pour Antoine Gibert. 7-0 le score en faveur du Racing 92 sur la pelouse du Stade français dans ce premier barrage. 11 minutes de jeu à Jambouin.
Très bien, messieurs, à tout à l'heure pour la suite de ce match. Il est 14h13, vous êtes sur RMC. Dans un instant, on ouvre notre magazine olympique en route pour Paris 2024.
RMC, Intégral Sport.
Christophe
Cessier. L'Intégral Sport, cet après-midi sur RMC, il fait un temps magnifique, notamment sur la capitale, avec les deux premiers gros événements. Vous savez que ce soir, il y aura évidemment la dernière journée de Ligue 1. On ira tout à l'heure à Ajaccio. Ça chauffe entre les supporters ajacciens et marseillais. Beaucoup d'enjeux ce soir et beaucoup d'enjeux cet après-midi en rugby, en tennis. On fait un point sur le premier match de barrage du top 14 qui oppose depuis maintenant un peu plus d'un quart d'heure le Stade français au Racing. Julien Richard, Pierre Abadran.
Ouais, le quart d'heure de jeu ici à Jambouin, 7-0 pour le Racing 92, essai de Juanimov, l'Argentin, transformé par Antoine Gibert. Et on le rappelle, le fait de jeu marquant de ce début de match, c'est l'expulsion, carton rouge de Marcos Kremer, le troisième ligne argentin du Stade français. Et le Stade français obligé de jouer à 14 contre 15 pendant 75 minutes. Pierre, mais qui réagit après quand même ce premier essai encaissé?
Oui, qui réagit et qui va avoir l'occasion peut-être d'ouvrir le tableau de marque. Parce que Joris Second a l'opportunité de tenter une pénalité assez facile, hein, à 30 mètres en face des poteaux, et de remettre le Stade français à 4 points du Racing si elle passe, après un début de match qui a altéré entre un peu de fébrilité. On a eu pas mal d'en avant côté, ouais, Stade français, et puis le carton rouge évidemment dramatique et pour le club. Et des erreurs défensives aussi, notamment sur le premier essai de Juanimov. Donc peut-être finalement l'occasion là de rentrer dans le match pour le Stade français. Et ça va être dur, hein, Julien, vous l'avez dit, à 14 contre 15. Mais ils vont s'accrocher à l'image de la pénalité que Joris Second vient de transformer.
Allez, les trois premiers points pour le Stade français. Joris Second, pénalité, 17 minutes de jeu, 7 pour le Racing 92 et 3 pour le Stade français.
Merci, à tout à l'heure. Le tennis, Roland Garros, avec notamment Rune qui est sur le court opposé à un adversaire argentin dont il ne va faire qu'une bouchée, a priori, Eric. Hein.
Ah, c'est vrai que c'est bien parti, puisqu'après 1h11 de jeu, on est à 6-4, 5-1 pour Holger Rune, qui confirme vraiment ses énormes ambitions ici à Paris. On se souvient qu'il aurait dû jouer Gaël Monfils, hein, il y a deux jours, puisque c'était la night session qui était programmée. Donc il a bénéficié d'un forfait. Donc oui, c'est un début de tournoi quasiment de rêve pour le Scandinave, qui va peut-être déjà surveiller ce qui se passe sur le court Lenglen tout à l'heure, puisqu'il affrontera le vainqueur du match entre Taylor Fritz et Cerundolo. Mais c'est vrai que là, le jeune Argentin, bon, il est gentil, il est 230e, il sort des qualifs. En plus, il est projeté dans l'arène du central, c'est vraiment peut-être le costume.
Ça fait un peu beaucoup, ouais.
Ouais, ça fait un peu beaucoup pour lui. Bon, il défend bien ses chances, mais là, le score enfle très vite. Hein. Il joue très bien, on le sait. Il a très bien joué, que ce soit à Monte Carlo, que ce soit à Rome. Donc, ça va être vraiment l'un des mecs à suivre dans le tableau masculin, dans ce bas de tableau qui est très ouvert depuis l'élimination de Dani Medvedev.
Ok Eric, à tout à l'heure. Nouvel essai me semble-t-il pour le Racing, messieurs.
Eh ouais, le Racing qui pousse et le Racing qui marque le deuxième essai. Wenceslas Loré, le troisième ligne francilien qui vient en force après un nouveau temps fort des Ciel et Blanc, inscrire ce deuxième essai. Donc le score après 18 minutes de jeu et avant la transformation qui sera quasiment face au poteau, va légèrement excentrer sur le côté droit, 12-3 pour le Racing. Quelques faiblesses défensives hein, mais c'est normal, peut-être aussi à 14 contre 15 Pierre. Ouais, vas-y,
pas oui, bah, normal non, parce que on a vu encore une situation où il n'y a pas forcément de surnombre et on vient couper sur l'avant d'un défenseur et qui a amené encore Roanimov à quasiment se rendre sur la ligne ou Max Spring. Et du coup, évidemment, à quelques centimètres de la ligne, l'arrivée lancée de Wenceslas Loré ne peut plus être contrôlée, même s'il va y avoir apparemment un contrôle quand même vidéo, ouais, des arbitres.
Alors Antoine Gibert était en train de s'apprêter à tirer sa transformation, à tenter la transformation, mais l'arbitre est finalement lui a demandé de temporiser et va se rendre sous les écrans géants. Christophe, je te fais signe si décide de pas accorder ce deuxième essai pour le Racing 92.
Très bien les garçons, on vous retrouve tout à l'heure, mais comme tous les samedis après-midi, il est l'heure maintenant de partir pour Paris 2024.
En route pour Paris 2024
avec la Team RMC.
Vous avez pris l'habitude évidemment depuis quelques mois maintenant, tous les samedis après-midi sur RMC, on vous donne des nouvelles, les dernières nouvelles de l'actualité olympique avec ce compteur qui continue de défiler. Nous sommes maintenant à 419 jours de la cérémonie d'ouverture, ça se rapproche. Bon, il y a encore un peu de temps, mais ça se rapproche. Dans quelques minutes, on écoutera l'interview de Florent Manaudou que Julien Richard a rencontré cette semaine, et puis on sera également avec Nicolas Paolorsi qui a plein d'infos à nous donner. Et puis évidemment, en route pour Paris 2024, c'est aussi l'occasion de prendre des nouvelles de la Team RMC, de ces athlètes aussi bons au micro qu'ils le sont dans leur discipline. Et la médaille d'or de la meilleure communicante, je l'attribue sans l'ombre d'un doute à Mathilde Gros, notre championne de cyclisme sur piste. Salut Mathilde.
Bonjour à tous.
Mathilde, si douée sur un vélo qu'au micro. C'est vrai que tes talents au micro pourraient t'offrir, hein, au terme de cette magnifique carrière, tu as encore un peu le temps, 24 ans, mais bon, est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait de travailler dans les médias après? Je sais que tu fais des études à côté, hein, donc tu auras peut-être l'occasion de gagner plus de sous que de travailler dans les médias.
Non, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'envie pour mon après-carrière, parce qu'on y pense, hein, parce qu'on sait pas de ce que l'avenir est fait. Donc franchement, j'adore les médias, journalisme, tout ça. Donc, pourquoi pas, ça reste un de mes projets pour plus tard.
Eh ben voilà, bah écoute, on te fait la proposition déjà. Hein, on t'enverra un contrat,
ouais.
Parce qu'on sait que tu t'exprimes très bien. Et tu parles très bien à la fois de toi, de ton sport, de ce magnifique sport qu'est le cyclisme sur piste. D'ailleurs, merci, le cyclisme beaucoup sur piste, est-ce qu'on en vit bien aujourd'hui? Quand on est une championne de ton niveau, championne du monde évidemment, on arrive à en vivre confortablement quand même maintenant.
Ben moi c'est vrai, j'ai de la chance d'avoir un super agent déjà qui est Leslie John, on avait pris contact ensemble quand j'avais 17 ans, parce que lui en fait était sur sa fin de carrière.
Ah ouais, et, il était malin, hein, à 17 ans il a senti ça, que la petite, ouais, Mathilde ça allait, ouais, faire quelque chose.
Ouais, dès le début il m'avait dit ah toi je te garde à l'œil et tout. Moi je venais d'arriver à l'INSEP, je venais de tomber, c'était le premier jour, je me suis dit oulala, lui s'enflamme un peu trop, et en fait 2 ans après il m'a contacté parce que enfin voilà, il avait aussi il avait son après-carrière, enfin voilà, lui il savait ce qu'il voulait faire, et du coup bah, j'ai de la chance d'être très bien entourée, j'ai ma famille aussi qui m'aide énormément, et c'est vrai que bon, on n'est pas professionnel parce que voilà, on n'a pas de métier entre guillemets fixe à côté. Mais moi, j'ai la chance d'avoir intégré l'armée des champions en novembre dernier. Donc, je suis salariée et ça me permet vraiment de me déconnecter, enfin voilà, de penser vraiment à juste appuyer sur les pédales et grâce donc à mon agent avec tous mes sponsors qui sont à côté et l'armée des champions où je cotise pour ma retraite, etc. C'est vrai que grâce à ça, j'arrive à vivre pleinement, enfin de ma passion et de pas me soucier sur comment je vais manger demain, comment je vais pouvoir payer le loyer. Enfin donc franchement ça, j'ai de la chance par rapport à ça d'être aussi bien entourée.
Eh ouais, c'est important d'ailleurs. L'armée, les douanes s'occupent beaucoup des athlètes olympiques. On pense notamment aux athlètes d'hiver, mais c'est aussi le cas. Tu viens de nous l'expliquer. Donc pour les athlètes, Leslie Jones, pour ceux à qui ce nom dirait quelque chose, c'est évidemment ce garçon qui faisait partie du relais 4x4, qui avait remporté le titre de champion du monde. C'était en 2003 à Paris, magnifique finale avec le final notamment de Mark Rakit. Ça avait été énorme. Et Leslie Jones qui est donc agent aujourd'hui. Alors Mathilde, la fois qu'on s'est parlé, tu rentrais de vacances ou tu allais repartir, je crois, dans le sud pour faire un peu de foncier. Où en es-tu aujourd'hui? Les compètes s'approchent, notamment le grand rendez-vous de la saison qui sont les championnats du monde. Il y a encore un peu de temps, mais là, t'en es où de ta préparation là?
Oui, bah, la dernière fois qu'on s'est quitté, donc j'allais profiter un peu de ma famille et faire aussi profiter avec mon club pour faire beaucoup de foncier. Donc ça a été chose faite. J'ai fait des 3 heures de route avec mon club. Donc des fois, c'était vraiment pas évident. Les petits jeunes du club, ils roulaient très très vite. Donc mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis je suis remontée donc après 3 semaines d'entraînement intensif à la maison, je suis remontée sur Saint-Quentin et c'est vrai que bah, le coach avait vu, avait dit ça fait du bien aussi de rentrer chez vous et tout. J'ai dit moi c'était plus que nécessaire et du coup j'ai pu bien m'entraîner. Et puis là le week-end dernier j'étais en Allemagne pour un Grand Prix. Donc j'ai pu courir, faire 2 fois de la vitesse, une fois avec les dames et une fois j'ai demandé à courir avec les juniors hommes.
Ah ouais?
Pour courir, c'était des matchs à 3. Au jeu, les repêchages, c'est des matchs à 3. Le but c'était vraiment d'engranger un maximum de courses et donc de Kérin aussi également. Donc les résultats étaient là et puis enfin hormis les résultats, c'était vraiment pour bien courir et pour finaliser mon bloc d'entraînement. Donc j'ai pu bien m'entraîner et bien finaliser ce bloc. Et là, j'ai quelques jours de repos. Et demain, je remonte sur Paris pour réattaquer lundi un autre bloc pour en vue les championnats du monde cet été.
C'est étonnant de s'entraîner avec des garçons, avec les juniors. Ça donne quoi en termes de niveau, justement? Est-ce qu'une championne comme tu es est plus forte que les meilleurs juniors ou alors masculins?
Non. Les meilleurs juniors masculins, ils sont sur des temps de 10-1. Moi, mon record absolu que j'avais fait sur une 250 mètres, c'est 10-40. Mais en fait, ce qui est bien là, c'était l'opportunité déjà parce que le dernier jour, on avait que du Kérin avec les dames et les commissaires ont été super gentils avec. Enfin, l'entraîneur a demandé en fait si je pouvais aussi faire le sprint junior homme parce que en fait, un garçon, c'est plus résistant, ça a un meilleur jump. Donc en fait, ça nous oblige à être beaucoup réactive et du coup, ça change aussi, hein, ça permet de courir différemment. Là, on sait qu'on est moins fort sur le plan physique, donc techniquement et tactiquement, il va falloir poser des choses et tout. Donc c'était sympa. En plus, il faisait beau, c'était sur une piste extérieure, donc parfait.
Magnifique, tout va bien. Tu es plutôt, tu le disais, tes résultats sont plutôt bons en termes de chrono. Tu es dans le coup. Qu'est-ce qui va y avoir? Donc, je le disais, au mois d'août, je crois, hein, les championnats du monde qui auront lieu à Glasgow. Ça, c'est le sommet de la saison. Il y a d'autres compétitions qui t'attendent d'ici là?
Non, d'ici là, c'est vraiment. En Allemagne, c'était un peu pour regoûter à la compétition, remettre un dossard, voilà, finaliser les choses. Et là, ça va être vraiment entraînement jusqu'à Glasgow au mois d'août. Même si, bien évidemment, voilà, ça reste un championnat du monde cet été, je vais m'en servir énormément parce que voilà, on avait coché l'année dernière les championnats du monde à Paris parce que c'était à la maison, c'était une répétition pour les Jeux. Donc il y avait beaucoup plus de pression, Et là, cette année, bon, ça reste un championnat du monde en plus qualificatif pour les Jeux, donc. Voilà, l'objectif, Bon voilà, c'est d'aller le plus loin possible et d'aller chercher une belle médaille. Mais là maintenant, ce qui est très important, c'est que comme vous l'avez dit récemment, il reste 419 jours, je crois, ouais, avant les Jeux. Donc l'objectif, ça va être d'utiliser ces 419 jours à bon escient pour être focalisé sur Paris en fait et, ouais, et faire la plus belle performance à Paris.
C'est-à-dire que des championnats du monde qui précèdent une année olympique sont moins importants que dans d'autres circonstances. Hein. Cette année, ils seront, c'est pas capital quoi.
Là, c'est vrai. Enfin, non, mais en plus cette année, bon, je dis ça, mais cette année, c'est le seul championnat du monde qui va compter pour la qualif. Donc en fait, c'est hyper important en termes de points.
Ce serait bien,
mais
ouais,
je me mets pas de pression comme à Paris. Enfin voilà, je me mets pas de pression. J'ai été championne du monde, c'est coché. Maintenant, moi, je vais être championne olympique. Donc, enfin voilà, Glasgow, pareil, ça va être comme à Paris l'année dernière, dans le sens où voilà, peaufiner, essayer des choses, et puis, enfin voilà, à la fin, que ce soit des bons résultats ou des différents résultats que je voulais, le but c'est que ça me serve pour Paris, quoi. C'est ouais, ça, c'est ça le but.
Comment elle fonctionne cette qualif olympique, Mathilde? Tu disais il y a des points à prendre dans ces championnats du monde, mais c'est la seule manière de se qualifier pour Paris. Il y aura d'autres épreuves.
Alors c'est assez compliqué cette fin, c'est différent cette année parce que vu que Tokyo a été décalé de une année, normalement nous c'est les deux années qui précèdent les Jeux Olympiques. Or bah cette année il y en a que trois, donc en fait ils ont décidé de faire que l'année qui précède les Jeux Olympiques.
Ah ouais,
donc on a commencé la qualification. Ouais, c'est vraiment là c'est un peu la course. Donc on a commencé la qualification en janvier 2022 par les championnats de France, janvier 2023 pardon, par les championnats de France. Donc là ça compte. Ensuite, on a fait un championnat d'Europe, donc il compte, et on avait trois manches de Coupe du Monde. Les deux meilleurs résultats sur les trois manches comptent, donc c'est pour ça que nous on a fait que deux manches de Coupe du Monde, et nous le but c'est de se qualifier via la vitesse par équipe, donc de rentrer dans les huit premières de toutes les équipes mondiales. Donc on a fait des bons résultats parce que je crois qu'on est classé quatrième ou cinquième, donc on est bien. Et là, le championnat du monde, c'est le championnat qui va compter le plus. Mais après, on rajoute le championnat de France de l'année 2024, le championnat d'Europe de l'année 2024 et les deux dernières manches de Coupe du Monde de l'année 2024, juste avant les Jeux. Mais bon, autant vous dire que si vous réussissez Glasgow, les championnats du monde,
dans la poche, quoi.
C'est compliqué de se rater après, parce que le but vraiment, enfin voilà, après on peut toujours faire d'autres compétitions, des grands prix, mais c'est vrai que c'est mieux si on rate pas Glasgow, c'est moins frustrant et moins on va dire on est moins dans la précipitation et plus dans la sérénité, quoi.
D'accord. Donc il y aura pas l'obligation de remporter ce titre mondial, mais on l'a bien compris, ce sera très important d'obtenir plein de gros points pour évidemment se qualifier pour Paris, parce que ce serait quand même dommage de pas y être dans ces championnats du monde. Du coup, été comme souvent va être studieux, hein, parce que toi les vacances d'été c'est pas au mois d'août, c'est au mois de juillet. Hein.
C'est ça, bah en plus, mais là c'est bien parce que les championnats du monde ils sont début août, donc on aura une petite quinzaine après ces championnats du monde où je vais pouvoir profiter. Comparé à l'année dernière où l'année dernière les championnats du monde étaient en octobre, donc autant vous dire que les vacances au mois d'août ça n'existait pas. Donc là ça va changer un petit peu et ça va être justement les dernières vacances entre guillemets, enfin les moments un peu où on peut partir en famille ou autre à ce moment-là, parce qu'après ça va être full Paris.
Exactement. Et écoute, on te souhaite une bonne préparation, Mathilde, pour en direction de ces championnats du monde, donc qui auront lieu en Écosse début août, et puis ensuite les vacances. Et on prend évidemment régulièrement de tes nouvelles. Tu nous dis comment se passe tout ça. Pour l'instant, tout va bien. La santé va bien, le physique est au top,
tout va bien.
Le moral a l'air plutôt bien. Il y a du sourire dans la voix, tout va bien. Hein. On sent que
c'est ça. C'est parfait.
C'est parfait. Merci beaucoup, Mathilde. À très bientôt.
Merci
à très bientôt.
Merci à vous et puis à bientôt.
À bientôt.
À très bientôt. Bonne journée à vous.
Merci Mathilde. Mathilde Gros, notre championne du monde de cyclisme sur piste. Vous l'avez entendu, ce sourire dans la voix. Grande championne. Super Nana. 14h33. Nous, on va retrouver les super boys du rugby. Ils sont deux. Ils sont à Jambouin. J'ai nommé Pierre Rabadon, Julien Richard pour ce match de barrage du top 14 qui oppose le Stade français au Racing. On rappelle que les Parisiens ont été réduits à à 14 après l'expulsion de Kremer en tout début de match, et les Parisiens qui subissent la domination de leurs voisins, messieurs.
Ouais, il va falloir qu'ils sortent les watts plus fort que Mathilde Gros là, s'ils veulent revenir dans cette partie. Ils sont menés 17-3 les Parisiens par le Racing 92, 28 minutes de jeu, et on rappelle donc cette expulsion de Marcos Kremer qui évidemment change tout. Le troisième ligne dès la cinquième minute dans cette partie, deux essais marqués par le Racing qui prend les points. On a vu Laurent Travers sur une pénalité dans les 22 mètres demander à ses joueurs est-ce qu'ils ont fait, ils l'ont écouté, de prendre les points, essayer de creuser cet écart, Pierre.
Ils capitalisent, hein. Ils savent qu'en supériorité numérique, il faut de toute façon, sur un match en jeu comme ça, ne pas laisser passer d'occasion, et pour l'instant ils dominent clairement un Stade français qui est fébrile, qui trouve pas les solutions. Alors peut-être un peu assommé par le carton de Kremer, mais il va falloir qu'effectivement ils montent les watts, et surtout ils montent peut-être l'engagement et l'intensité pour essayer de rivaliser à 14 contre 15, parce que pour l'instant ils sont pris vraiment dans tous les secteurs du jeu, soit dans l'occupation, dans les plaquages, dans l'intensité simplement que chacun y met. Donc le Racing pour l'instant très à l'aise, ouais, et en maîtrise face à un Stade français en grande difficulté sur son terrain.
Et c'est vrai, même sur les ballons d'attaque, hein, avec de la fébrilité au moment de franchir des petits détails avant, des en avant, et
qui sourit pour l'instant. Pour l'instant vraiment ils sont à côté de la plaque, les Parisiens, et on sent qu'ils ont envie de réagir, mais pour l'instant ils ne trouvent pas les solutions, et elles seront compliquées de toute façon en infériorité numérique, ouais. Mais comme je le disais, c'est pas impossible. Maintenant il va falloir retrouver des clés d'avancer, ce que pour l'instant le Racing ne les laisse pas faire.
30 minutes de jeu, Christophe, 17-3 le score. Et juste te préciser le retour de Finn Russell qui était victime du coup de tête de Marcos Kremer, qui était sorti sur protocole commotion, mais qui est revenu sur la pelouse.
Et on rappelle qu'il fait très chaud cet après-midi sur la capitale, et que là aussi c'est un élément à prendre en compte, hein.
Tout à fait, on a vu le premier water break, la pause eau à la 20e de la saison, je pense que c'était la première. On voit par exemple le Racing qui continue vraiment à dérouler, même s'il y a un passage à vide, et l'entrée ponctuelle, hein, de Léo Barré à la place de Kylian Hamdaoui qui sort sur saignement. Voilà, donc le Stade français qui va pouvoir revenir. Ça fait longtemps qu'ils n'y ont pas été dans le camp des Racingman après cette pénalité, cette bonne touche trouvée par Joris Sauveur.
Touche trouvée dans les 22 mètres, donc la demi-heure de jeu. Et 17 pour le Racing 92, 3 pour le Stade français.
À tout à l'heure, Roland Garros, Eric Salio avec des matchs importants sur le central où c'est la promenade de santé pour Runeux. Et puis ce match intéressant entre les deux jeunes femmes que sont Andreeva et Goff sur le Langlaine. Là, c'est plus disputé, Eric. Hein.
Ah oui, c'est une belle affiche. C'est d'ailleurs, hier on en discutait avec l'équipe, la team RMC. C'est un match qui aurait pu être programmé en night session sur le central. Peut-être que Amélie Mauresmo était tentée de le programmer, mais c'est vrai que Mira Andreeva pour le Grand Prix, ça ne veut encore rien dire. Et pourtant, c'est une jeune fille qui a un talent fou.
Parle-nous un petit peu de cette jeune fille-là.
Elle a que 16 ans et elle s'entraîne dans l'académie de Jean-René Lisnard, vous savez, à Cannes, sur la Côte d'Azur. Et Jean-René Lisnard est le premier à dire que c'est
un phénomène.
C'est un phénomène. Et moi, c'est vrai que je suis allé voir son match contre Diane Paris sur le court. Je voulais me rendre compte. Et elle a un sens tactique extraordinaire. Elle me fait un peu penser à Martina Hingis, tu vois, parce que c'est pas un immense gabarit. Elle a pas une puissance phénoménale, mais alors, elle a une précision, une intelligence de jeu qui pour l'instant, inquiète l'américaine, puisque Coco Gauff est menée 4-3 par Mira Andreeva, et elle s'en sort bien puisqu'elle était breakée, elle vient de débreaker, là elle a 3 balles pour faire 4 partout, mais elle est pas à la noce. Coco Gauff, finaliste l'an dernier, Christophe, faut pas l'oublier, donc elle joue gros sur cette rencontre. Donc c'est une affiche qu'on va suivre, hein, parce que c'est vraiment sur le central, c'est problème de santé pour Holger Rune, 6-4, 6-1, 2-1. Il y a trois autres matchs du simple messieurs qui se déroulent sur les courses annexes. Čurić est en difficulté face à Echeverri l'Argentin, 6-3, 5-4 pour Echeverri. Un Chilien qui joue très bien actuellement, c'est Nicolas Jarry, qui mène 2-0 face à Riron, l'Américain. Et puis, cinquième set sur le cours Simon Mathieu entre Yoshito Nishioka, le Japonais, et Thiago Sebotwilt, le tombeur de Medvedev.
Et ben voilà, il y a du beau programme cet après-midi sur les cours de Roland-Garros. 14h38, à tout de suite sur RMC. On va continuer de suivre évidemment toutes ces rencontres et de poursuivre également notre magazine olympique. Dans un instant, on va écouter Florent Manodou, le champion, le grand nageur français évidemment, qui va tenter d'aller décrocher une nouvelle médaille lors des Jeux de Paris 2024. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Et la réaction du Stade français, largement mené par le Racing, qui vient d'inscrire son premier essai de la partie, Julien.
Oui, Sékou Makalou a tendu ses longs bras à la conclusion d'une petite séance de pick and go là, sur la ligne, la grosse défense du Racing. Mais Sékou Makalou qui vient redonner un peu d'espoir au Stade français. Transformation de Joris Segond, le score à 5 minutes de la pause, 17 pour le Racing, 92, 10 pour le Stade français, 7 points de retard. On sentait qu'il y avait une réaction, enfin une conclusion positive pour le Stade français sur cette action.
Ouais, première phase de lancement réussi hein, sur un ballon porté, même si la touche n'était pas trop maîtrisée, on a atterri à quelques centimètres de la ligne et effectivement un enchaînement de pick and go et ça continue là pour le Stade français, même si on va revenir à une mêlée qui a vraiment dominé celle du Racing, mais on n'a pas laissé l'avantage hein, du côté.
Ouais, ça râle hein. Vous entendez Jean Bouin, les tribunes qui grondent parce que il y a Lester Etienne qui était parti en numéro de funambule le long de la ligne de touche, l'ailier du Stade français sur cette mêlée, mais l'arbitre avait sifflé.
Dommage de ne pas avoir laissé jouer quand même.
Non, ouais, on est d'accord
Christophe, ouais.
Et du coup il y a une pénalité pour le Stade français.
Ouais, le Stade français qui finit mieux hein, cette mi-temps, parce que franchement les 30 premières minutes pour eux ont été un vrai calvaire au-delà du carton rouge de Kremer. Et ils sont finalement qu'à un essai transformé à la mi-temps, et peut-être qu'ils vont remarquer dans les 4 minutes qui restent. Mais en tout cas, ça se présente un petit peu mieux pour le Stade français à domicile face à un Racing qui a quand même maîtrisé jusque-là en supériorité numérique en plus.
Ouais, le Stade français encore en vie, et effectivement, c'était pas gagné quand on a vu le début de match hein, avec ce carton rouge au bout de 5 minutes et cette domination des joueurs du Racing 92. La touche pour le Stade français dans les 22 mètres du Racing 92. À 3 minutes maintenant de la mi-temps, 17-10.
Très bien Julien, on va rester dans ton domaine puisqu'on va parler de natation maintenant dans notre mag olympique. Dans une semaine auront lieu les championnats de France de natation, ça sera à Rennes, qualificatif pour les championnats du monde de Fukuoka au Japon qui auront lieu du 23 au 30 juillet prochain. Florent Manodou a joué les maîtres nageurs, c'était mardi à Marseille, il est le parrain de l'opération Savoir Nager de son partenaire EDF pour promouvoir l'apprentissage de la natation dans une ville où un enfant sur deux ne sait pas nager à son entrée en sixième, un capitaine de l'équipe de France qui s'est aussi mis en ordre de marche pour les Jeux de Paris. Reportage Edgar Grolot.
Est-ce que vous êtes chaud ?
Oui !
120 minots marseillais, les yeux écarquillés.
Le meilleur nageur de France.
C'est un grand champion de piscine.
En plus, il est musclé.
Et au milieu, tout sourire, Florent Manodou, bonnet floqué EDF sur la tête. Le champion olympique donne de sa personne, enchaîne les séquences avec les enfants, les interviews. Les mascottes de Paris 2024, les friges sont là aussi. Histoire de rappeler que les Jeux de Paris approchent et les attentes qui vont avec.
Bah, y a un engouement énorme, mais je sais très bien que et mes sponsors et les journalistes et Paris 2024 et il y a beaucoup de « et ». On me demandait beaucoup de choses l'année prochaine. Et il y a aussi un moment où il faut que je m'entraîne parce que j'ai envie de performer. Moi, dans un premier temps, j'ai envie de performer au jeu.
Le triple médaillé olympique sur 50 mètres a donc décidé de s'isoler 10 semaines à l'autre bout de la planète. Début janvier prochain, direction Brisbane, en Australie.
C'est bizarre à dire, mais par exemple, ce week-end, quelque chose de génial, je suis allé voir le Grand Prix de Monaco, mais ça crée aussi de la fatigue. Et je sais qu'à Brisbane, j'aurai 10 semaines et donc 9 week-ends de repos aussi. Donc je pourrais sûrement travailler mieux.
Comme à Antibes, où il s'entraîne avec ses amis Yoris Grandjean et Quentin Coton, c'est avec un de ses meilleurs amis installé à Brisbane, Dorian Gandin, qu'il effectuera ses séances, toujours supervisé à distance par l'anglais James Gibson, qui l'avait guidé vers le titre olympique de 2012.
C'est pas quelque chose de commun d'avoir une préparation comme ça. Ça ressemble un petit peu au tennis, on est en plein Roland-Garros, donc on peut faire le parallèle. Je suis un peu un athlète comme un tennisman qui choisit son staff autour de lui et qui veut performer avec mon staff que j'ai choisi.
Sans raquette, mais avec bonnet et lunettes, Florent Manodou tentera à Rennes la semaine prochaine de se qualifier pour ses premiers championnats du monde depuis un petit moment, puisqu'avec sa saison de transition l'an dernier et sa pause handball, il n'a plus disputé de mondial depuis sa razzia, ses 3 titres remportés à Kazan en 2015.
Florent Manodou, la méga star de la natation française, qui va donc, Julien, tiens, on va en profiter puisque t'es avec nous, qui va donc aller faire un petit tour en Australie pour éviter un peu d'avoir trop de pression. C'est pas mal comme idée finalement. Hein.
Bah, ça veut dire qu'il a aussi envie de bosser très sérieusement et qu'il a clairement envie d'aller gagner une quatrième médaille en quatre Jeux Olympiques sur cette course de 50 mètres nage, ce qui serait quand même monumental. Et franchement, il en a la possibilité. Personne ne domine cette saison, en tout cas le 50. Il n'y a pas d'épouvantail pour l'instant et il fait partie de ce lot de nageurs en capacité d'aller chercher une médaille.
Et bientôt, il pourra aller nager dans la Seine que Pierre est en train de nettoyer tous les jours.
Christophe. Hein absolument, on y compte bien. Il y en a même qui vont y nager dès cet été. Hein,
le 5 août, le test event de l'eau libre, du 10 km. Absolument. Ça sera à vivre.
Julien est bien en fait. Tu vois. Julien,
d'ailleurs, Pierre, si je peux moi aussi nager dans la Seine, je suis preneur.
Très bien. Prépare ton maillot. Ouais. Alors, en attendant, ici, le Stade français va mieux. Et va essayer de marquer avant la mi-temps, même si là on va passer le temps réglementaire.
Allez,
après, excuse-moi Julien, mais ouais. Juste après, peut-être ce qui sera la clé finalement, même s'il y a eu le carton jaune de Camichet qui a été numérique, on voit depuis 10 minutes le paquet d'avant du Stade français. Et on savait que pour le Stade français, c'est peut-être la clé, vraiment prendre l'ascendant sur le Racing comme ils viennent de le faire sur la mêlée. Et là, ils auraient pu prendre les 3 points, mais ils ont décidé de reprendre une mêlée pour relancer le jeu.
Vous avez entendu les cloches de Notre-Dame, ça veut dire que les 40 minutes se sont écoulées ici à Jean-Bouin. Le score est de 17 à 10 en faveur du Racing 92 face au Stade français. Mêlée, introduction pour les Parisiens. On est à 5 mètres de la ligne d'en but. On est quasiment collé à la ligne de touche, à la ligne d'en but du Racing 92. Hein. Donc c'est un moment important pour les joueurs du Stade français qui peuvent revenir à égalité à la mi-temps, à 14 contre 14, puisque Camicha, le talonneur, a été sanctionné d'un carton jaune pour le Racing 92. Allez, l'arbitre qui a signalé un avantage pour le Stade français qui va avec ses avants. Nouvelle charge là, 2 mètres maintenant de la ligne d'en but du Racing 92. La défense pour l'instant du Racing. On choisit d'élargir le jeu avec le contre peut-être. Oui, on va revenir. On va revenir à l'avantage et la pénalité à 5 mètres de la ligne d'en but. On avait choisi d'ouvrir, mais une passe pas forcément bien assurée. Et derrière, on revient à la pénalité.
Ouais, avantage en cours sur la mêlée, hein, qui a, je vous le disais, mais la dernière aussi a été surdominé par l'équipe parisienne et derrière on a essayé comme sur le premier essai de Macalou hein, d'aller repasser la ligne avec du pick and go, mais une bonne défense du Racing les en a empêchés et même derrière il n'y avait aucun surnom même si la passe est tombée, donc on revient à la pénalité.
On va choisir la mêlée là forcément.
Ce que j'allais dire, le choix va être indicatif aussi je pense, qu'ils vont essayer d'aller chercher peut-être un nouveau carton jaune voire un essai de pénalité. Mais attention parce que le Racing peut aussi sur une mêlée inverser simplement la pression hein. Donc on sait que c'est des paris importants. Voilà, d'ailleurs on a fait un changement hein, côté du Racing avec l'entrée d'Eddy Benarous qui va remplacer Koubiashvili, je crois.
Ouais, c'est ça. Et on choisit l'épreuve de force dans cette fin de première mi-temps ici à Jean-Bouin, le Stade français qui va essayer de recoller à la mi-temps le soutien de Jean-Bouin. On a entendu quand même quelques supporters du Racing dans ces tribunes, mais le rose là est évidemment prédominant et on les entend pousser leur équipe sur cette dernière action. Après, ce sera la pause. 17-10 le score et la troisième mêlée donc consécutive. L'épreuve de force parce qu'ils se sentent forts, tu l'as dit Pierre, c'est le point fort peut-être de cette équipe, l'un des meilleurs paquets d'avant du championnat pour le Stade français. Allez, l'introduction pour Arthur Coville, la mêlée qui se met en position aux commandes, aux ordres de l'arbitre, et on est donc à 5 mètres toujours de la ligne d'en but. Alors voilà, faire rejouer parce que l'introduction s'est mal déroulée.
Exactement.
Vous avez vu cette technique, c'est, me semble-t-il, c'est le troisième, il semble, c'est Macalou, qui avait le ballon entre les pieds, qui faisait des petits sauts avec le mec qui progressait.
Christophe, c'est la signature Sergio Parisse, c'est le premier que j'avais vu.
Ah, c'est Parisse qui faisait ça.
Qui j'avais vu faire ça, génial. Effectivement, faire des petits sauts. Bon, après, il faut arriver à maîtriser la sortie dans le bon timing, ouais. Etc. Alors je te concède qu'il vaut mieux avoir une mêlée qu'avance hein, quand tu décides de faire ça. Sinon c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est Koumakalou, hein, on connaît ses qualités de vitesse. Et s'il a une mêlée qui domine, il peut aussi, dans l'impulsion de l'avancée de sa mêlée, aller derrière la ligne. Et pour ça, il faut maîtriser le paramètre et de la poussée et du ballon. ou cette petite technique qui peut t'aider à faire ça.
Allez, on a l'air que Kylian Ndaoui a repris sa place à l'arrière, à la place de Léo Barré. Il était sorti sur saignement. La poussée, la mêlée qui se désaxe.
Avantage encore
pour le Stade Français. Est-ce qu'ils vont sortir ce ballon et y aller une nouvelle fois avec une série de pick and go? On a les trois quarts qui sont en place. Ils attendent le ballon. On voit Dakouaka sur l'autre aile à l'opposé qui trépigne d'impatience. Mais pour l'instant, c'est une épreuve de force toujours avec le pick and go mis en place par le Stade Français. On est à 5 mètres de la ligne d'en but du Racing 92. Nouveau petit paquet d'avant qui se forme, qui progresse. On est à 2 mètres maintenant, le ballon avec on tente d'y aller tout seul, mais la bonne défense du Racing 92 et le ballon est perdu. On va revenir une nouvelle fois.
La main à la poche. Attention, un nouveau carton jaune pour le Racing.
Attention, parce que là il peut aussi y avoir assez de pénalité au bout d'un moment, Pierre, parce que ça fait quand même trois fois qu'ils sont sanctionnés, les joueurs du Racing, sur cette même séquence de la mêlée.
C'est clairement ce qu'ils cherchent, l'équipe, le Stade Français, Eddy Benarous qui vient de rentrer, qui va retourner sur le banc. S'asseoir pendant pour la mi-temps et puis pour les 10 minutes qui suivent. Mais c'est effectivement ce que recherchait le Stade Français.
Le Stade Français peut-être en supériorité numérique désormais.
Puisque deux cartons jaunes pour le Racing, ils sont à 13 contre 14.
Mais il va falloir marquer des points pour le Stade Français qui a 7 points de retard, et attention à ne pas finir la mi-temps finalement sur le même score, même si, vous l'avez dit, ils vont avoir quelques minutes encore en supériorité numérique. En tout cas, on voit que c'est clairement le 8 de devant qui peut faire la différence pour les Parisiens.
Allez, tension maximale sur cette fin de mi-temps qui s'allonge, Christophe. On voit notamment Morgan Parra qui est remplaçant cet après-midi à Jean Bouin, qui trépigne lui aussi là, qui encourage ses coéquipiers. Tous les joueurs du Stade Français sont debout, tous les remplaçants dans leur carré technique, dans leur zone technique. Et on va retourner donc sur cette épreuve de force. C'est la combien? C'est la quatrième mêlée. Trois fois le Racing a été sanctionné
avec le retour à droite, parce que Benarous avait remplacé Coguillage-Villé, mais comme il vient de prendre un carton jaune, Coguillage-Villé re-rentre à la place de Wenceslas Soré pour les 10 minutes. Et voilà, il va falloir que aussi les avants parisiens ne s'épuisent pas, parce qu'ils font non seulement 4 mêlées mais derrière des séances de pick and go. Donc il faut garder la lucidité avec la chaleur,
la répétition des efforts là, ça doit commencer à piquer qu'on approche à la mi-temps de la mi-temps là.
Je pense qu'effectivement pour la première ligne notamment, ça pique énormément, mais ça passera par là pour les Parisiens. Ils sont déjà revenus un peu dans le match comme ça, et leur victoire potentielle ne pourra passer que par les avants.
Allez, la mêlée est stable, l'introduction là, ça se relève. Que va dire l'arbitre? Elle se désaxe, et une nouvelle fois pénalisée les joueurs du Racing 92. On voit Gaël Ficou qui se précipite pour aller demander des explications à l'arbitre de la rencontre. On voit Gonzalo Quesada avec le petit sourire en coin qui doit se demander mais quand est-ce qu'il va nous le donner cette pénalité, parce que là ça fait 4 fois quand même. On est au même endroit, ça fait 5 minutes qu'on campe là sur le côté gauche de l'attaque du Stade Français à 5 mètres de la ligne d'en but du Racing.
Si on n'était pas sur un synthétique, on serait inquiet pour la
pelouse. J'aurais un trou là.
Mais du coup c'est clair que de toute façon le Stade Français va chercher à enfoncer la mêlée du Racing jusque derrière la ligne, ou d'obtenir un essai de pénalité qui éviterait la transformation, parce que maintenant les essais de pénalité ne se transforment plus, parce qu'ils sont entre les poteaux.
17-10 pour le Racing 92, un essai d'écart. Cet écart, ils peuvent le combler sur cette dernière action. Ça fait 4 minutes qu'on est au-delà du temps de cette première mi-temps. 44e minute donc là. Et la quatrième mêlée, la quatrième faute sanctionnée sur une mêlée introduction du Stade Français. La cinquième mêlée, qu'est-ce qu'elle va donner? Il va falloir réintroduire, parce qu'on s'est mal lié sur l'entrée en mêlée, et l'arbitre redonne les consignes. Pierre Brousset, l'arbitre de cette rencontre, redonne les consignes aux premières lignes.
Au temps réglementaire du foot, qu'il y aura.
Il ne faut pas traîner parce qu'il y a le match. Il faut qu'on dégage vite, paraît-il, Pierre.
Exactement. Une petite association d'événements sportifs là, sur la porte d'Auteuil et de Saint-Cloud cet après-midi avec Roland Garros et le match du PSG contre Clermont ce soir. Mais en tout cas, pour l'instant, cinquième mêlée et le Stade Français à l'introduction.
Allez, Arthur Coville, l'introduction, la poussée, c'est Koumakalou que l'on voit là derrière, prêt à sortir, prêt à jaillir. Attention, le ballon a été volé, mais une nouvelle fois sanctionner les joueurs du Racing 92 pour faire quelque chose. Alors, peut-être là.
Cet essai de pénalité ou non?
Regarde.
Je pense que c'est la prochaine. Là, il va prévenir Gaël Ficou en lui disant s'il y a une nouvelle pénalité, ce sera essai de pénalité. Et 5, on va dire que c'est déjà un chiffre assez tolérant pour le Racing.
On a déjà vu siffler plus rapidement ce genre de choses. On voit d'ailleurs les joueurs du Stade français qui s'agacent un peu. On a vu Paul Gabriel là écarter les bras en disant, en faisant signe d'incompréhension auprès de l'arbitre. Il va falloir quoi pour le siffler, cet essai de pénalité?
Un arbitre anglais arbitre un match d'équipe de France, disons.
Je pense que c'est celle-là qui va faire foi. Si le Stade français redomine comme les cinq premières, Monsieur Brousset terminera la mi-temps entre les poteaux.
Et on serait à 17 partout auquel cas.
17 à 10 pour l'instant. On rappelle le scénario assez dingue de ce barrage quand même, puisqu'après 5 minutes seulement, on a eu le carton rouge de Marcos Kremer, le troisième ligne argentin du Stade français. Les joueurs du Stade français réduits à 14 contre 15 qui ont encaissé deux essais par Juan Imhoff et le deuxième essai, je ne me rappelle plus qui l'a marqué d'ailleurs. Deux essais pour les joueurs du Racing 92. La réduction de l'écart de Sekou Makalou, le Stade français toujours en vie, et sur cette dernière action donc, eh bien, la pression maximale, la sixième mêlée consécutive au même endroit. On est vraiment côté gauche, quasiment sur la ligne de touche quand on est sur le côté gauche de l'attaque du Stade français à 5 mètres de la ligne d'en-but du Racing 92. Allez, toujours le même scénario avec l'introduction de
l'Arthur Covid.
C'est Loré, c'est ça. Allez, l'introduction, la mêlée est stable, elle progresse. Le Stade français qui progresse, ça progresse, c'est écroulé. Allez, l'essai de pénalité, il est là. L'arbitre qui se dirige sous les poteaux. Le Stade français, miraculé de cette première mi-temps de ce barrage, qui rentre au vestiaire à égalité, 17 partout à la fin de cette première mi-temps. Score de parité à la pause entre le Stade français et le Racing 92, Christophe.
Parfait, ça nous promet une très belle deuxième période. Et les Parisiens sont en supériorité numérique encore pendant environ 2 minutes à égalité numérique pendant 6 ou 7 autres minutes. Merci messieurs, à tout à l'heure. Allez-vous vous hydrater parce qu'il fait très chaud aujourd'hui au stade Jean Bouin. Il est 14h57, on va poursuivre notre magazine olympique. Il attend depuis un bon moment, il attend aussi surtout de voir demain le match de barrage qui va concerner son équipe, l'UBB, qui jouera face au Loup. Nicolas Paolorsi est avec moi cet après-midi. Salut Nico.
Salut Christophe, salut à tous.
C'est vrai que t'as un week-end un peu chargé entre ce qui s'est passé hier à Bordeaux. Demain le match de barrage. Bref,
Et il y a de l'actu à Bordeaux.
Quand même un peu de temps pour nous parler de l'actualité olympique, avec notamment l'annonce cette semaine des modalités de sélection pour les porteurs de la flamme. Et oui, parce que ça, tout le monde ou presque va pouvoir s'adonner à ce petit passe-temps qui est magnifique de porter la flamme sur le parcours. On connaît les modalités depuis quelques jours.
Exactement. Je vais te donner toutes les astuces, Christophe, pour que toi tu puisses porter la flamme à partir du 8 mai 2024. Je te vois bien là en petite foulée avec la flamme olympique, tu seras parfait. Alors, arrivée de la flamme à Marseille à bord du 3-mâts, le Belém, le 8 mai, du coup un parcours de 65 jours ensuite avec 64 territoires traversés. Il y a 4 athlètes capitaines du relais de la flamme qui ont été choisis, Laure et Florent Manodou qu'on a entendu tout à l'heure, ainsi que Dimitri Pavadé et Mona Francis. Ce sont des athlètes paralympiques. Chaque relayeur va parcourir environ 200 mètres. Ça fait une expérience estimée à 4 minutes à peu près avec la flamme dans les mains. Il y aura des relais aussi, c'est une innovation pour ces Jeux de Paris, mais la flamme sera portée par un groupe par exemple de 24 personnes avec un capitaine qui tient la flamme. Je te donne les critères de sélection et on voit ensemble si tu les coches. Il faut faire rayonner le sport et sa pratique. Bon, ça, je pense que là, t'es en plein dedans.
Je suis au taquet, là.
Donc là, ça concerne bien évidemment les sportifs amateurs, les entraîneurs, les dirigeants, certains grands champions, des bénévoles de clubs. Bref, ça regroupe pas mal de monde. Il faut aussi être capable d'entreprendre, d'innover, de créer pour générer du progrès et d'incarner la culture française. Bon, ça, c'est tout toi, Christophe.
Non, mais là, je cumule tous les trucs, là. Incroyable.
Et enfin, il faut s'engager pour une société plus solidaire, plus inclusive, plus durable et plus juste. C'est ce que tu fais tous les week-ends dans les grandes gueules du sport.
Ça, c'est plus toi, Nico, ça.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Bon, en tout cas, on est pas mal. On peut peut-être postuler. Le programme prévoit une parité chez les porteurs de la flamme, bien évidemment. Une vraie représentation de la diversité. Il y aura des personnes en situation de handicap. Toutes les générations seront représentées. Alors, pour être sélectionné, tu peux faire un appel à candidature. Il y aura aussi des désignations directes. C'est-à-dire que quelqu'un peut te nommer. Il y aura des nominations par pair et puis un tirage au sort derrière avec une analyse d'un jury qui déterminera si t'as le bon profil. profil pour porter la flamme. Le parcours de la flamme sera dévoilé officiellement le 23 juin prochain à la Sorbonne.
Magnifique, avec un superbe parcours qui partira donc de Marseille et qui évidemment va parcourir tout le territoire. On a hâte de connaître ce parcours parce que ça va occuper beaucoup les territoires. Autre sujet, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra qui a accordé cette semaine un entretien exclusif de plus d'une heure à RMC Sport. Elle a notamment fait le point sur l'organisation des Jeux de Paris 2024, Nicolas.
Elle s'est confiée sur la nécessité de trouver rapidement un successeur à Brigitte Henriques, à la tête du CNOSF. Le CIO lui a notamment fait part de sa vigilance dans ce dossier. À un peu plus d'un an des Jeux de Paris, Amélie Oudéa-Castéra en a-t-elle assez de toutes les polémiques liées aux Jeux ? Sa réponse au micro de notre rédaction.
Il ne faut pas véhiculer de fausses informations. La désinformation, c'est le pire service à rendre à notre pays. Et j'y reviendrai peut-être sur le logement étudiant. On a raconté tout et n'importe quoi à ce sujet et c'est très important de bien remettre les points sur les i sur le fait qu'aucun étudiant ne sera pénalisé à l'été 2024 et encore moins par les Jeux Olympiques et Paralympiques. Il ne faut pas faire porter aux Jeux Olympiques le chapeau de difficultés qu'on a par ailleurs.
Voilà, vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site rmcsport.fr, Christophe.
Ok. Nico, rapidement, les résultats, parce qu'il y avait pas mal de disciplines olympiques qui disputaient des championnats du monde ou des coupes du monde cette semaine.
Hein. Oui, avec deux titres de championne du monde en taekwondo, Althea Lorrain, qui avait été médaillée de bronze à Tokyo à 21 ans. Elle est sacrée en moins de 73 kilos, championnat du monde de taekwondo qui se sont déroulés à Bakou en Azerbaïdjan. Titre également pour Magda Viet-Hénin, qui elle aussi participait aux Jeux à Tokyo en moins de 67 kilos. On a vraiment de belles ambitions hein, pour Paris en taekwondo. Chez les garçons, ça n'a pas été le cas, pas de titre. Du pentathlon moderne avec la troisième place lors de la finale de la Coupe du Monde pour Marie Oteiza. Elodie Clouvel a terminé 11e. Elles n'ont pas gagné de quota olympique les filles, mais elles se sont montrées. Le pentathlon qui sera une des épreuves phares des JO de Paris qui se déroulera, on le rappelle, au château de Versailles dans un écrin sublime. Et puis, une bonne nouvelle pour Mélina Robert-Michon, c'est de l'athlétisme. Elle a fait sa meilleure performance, Christophe, depuis 6 ans. Elle a jeté son disque à 65m49. Elle revient en force dans les bilans mondiaux. 7e meilleure performance de l'année. Elle s'est qualifiée pour les championnats du monde. De bon augure avant les Jeux de Paris qui seront, on peut l'imaginer, son dernier objectif sportif à 44 ans.
Eh ben, ce serait magnifique. Merci beaucoup, Nicolas. On se retrouve évidemment rapidement sur l'antenne. C'est quoi ton programme donc demain? Non, c'est à Lyon le match. Hein.
Ouais, c'est à Lyon. Le programme, on va gratter quelques infos quand même sur ce qui se passe autour des Girondins de Bordeaux quand même.
Savoir si ce match va être rejoué ou non face à Rodez. Merci Nicolas, bon après-midi.
Salut,
il est 15h03. Dans un instant, les infos et on repart ensuite à Jean-Bouin pour la deuxième période. On va suivre également ce qui se passe à Roland-Garros. Premier set très disputé entre André Va et Goff. Nous sommes dans le tie-break et Eric Salio va tout nous dire dans un instant.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessieu.
15h14 sur RMC, ça continue dans l'intégral sport avec du tennis, avec du rugby évidemment, le top 14 et le barrage. Ça vient de reprendre au deuxième mi-temps. On a vécu une fin de première mi-temps vraiment très tendue et avec cet enchaînement de pénalités qui a finalement abouti à un essai de pénalité qui permet, Julien et Pierre, eh bien, au Stade français de revenir à 17 partout à la mi-temps alors qu'ils étaient en infériorité numérique, on le rappelle, quasiment dès le début du match, après un carton rouge donné à Kremer. Et ben là, tout est à refaire pour les Racing Men. Et là, on ne sait plus trop de quel côté ça va tourner. Hein.
1 minute et 33 secondes dans cette seconde période. Effectivement, rien de marqué. Hein. 17 partout. Et les joueurs du Racing 92 qui ne sont plus en infériorité numérique, Pierre, puisque Camille Chat, le talonneur qui avait écopé du premier carton jaune côté Racing, est revenu. Donc à 14 contre 14. Beaucoup d'indiscipline hein, quand même aussi à retenir sur cette première mi-temps, de la fébrilité. C'est un derby et c'est un match de barrage, donc évidemment il y a de l'enjeu et c'est presque miraculeux au vu du scénario de ce début de rencontre, ce carton rouge de Marcos Kremer, de voir les Parisiens encore en vie à ce stade de la rencontre.
Ah ouais, ils se sont refait la cerise hein, ouais. Grâce à leur domination devant et le Racing qui est revenu avec des intentions hein, on le voit en ce début de deuxième mi-temps où ils sont revenus à égalité numérique et là ils vont avoir une pénalité à l'instant avec un coaching peut-être à signaler, Julien, du côté du Stade français intéressant, la sortie de Paul Allo-Émile hein, qui était pour beaucoup dans le retour hein, du Stade français dans cette fin de première mi-temps pour Vincent Koch, le pilier sud-africain un coaching qui, à mon sens, est un coaching d'anticipation pour peut-être faire revenir Paul Aloué-Émile en fin de match. Parce que si le Stade français est toujours au contact par ses avances, un peu sur le même modèle que ce qu'on avait en première mi-temps, ça pourrait
faire la diff.
Éventuellement faire basculer à la fin de match. Mais en tout cas, Finn Russell qui va tenter cette pénalité.
Allez, Finn Russell qui a placé son ballon sur le tee. On joue depuis 3 minutes en seconde période. C'est quasiment face au poteau, mais c'est loin. Hein. C'est au-delà de la ligne des 40 pour Finn Russell. Il n'y a pas de vent, ou très légèrement, un vent plutôt favorable d'ailleurs pour l'ouvreur écossais qui dispute peut-être son dernier match sous les couleurs du Racing 92. Lui qui filera à Basse la saison prochaine. En tout cas, il la passe cette pénalité. Et le Racing 92 reprend les commandes dans cette rencontre. 20 à 17, 43 minutes de jouer dans cette partie.
Ok, à tout à l'heure messieurs. On va aller faire un tour également à Roland-Garros avec la suite de ce match entre Andreeva et Goff. Les jeunes se sont au pouvoir sur le Suzanne Lenglet, notamment cette jeune russe qui a remporté la première manche, Eric.
Eh oui, avec beaucoup de sang-froid et de détermination, Mira Andreeva vient de remporter cette première manche au tie-break, donc 7 points à 5, ce qui prouve déjà qu'elle a des nerfs assez incroyables. Enfin, c'est une fille qui a un peu plus d'expérience qu'elle. Mais là, je commence à être un petit peu inquiet pour Coco Gauff, qui réussit pas un début de saison fracassant, et qui a évidemment beaucoup de points à défendre, vous en doutez, puisque elle avait fait finale l'an passé. Et puis, c'est aussi la réussite d'une académie, donc, dans le sud de la France, l'académie de Jean-René Lisnard et de Jean-Christophe Forel, donc, qui sont, vraiment, aux petits soins pour Mira Andreeva, 16 ans, donc, qui mène une manche à zéro face à l'une des outsiders du tournoi. C'est passé, sans problème pour Holger Rune, sur le central, 6-4, 6-1, 6-3. Début de tournoi assez tranquille donc pour le Danois, avec un premier tour en 4-7 contre un Américain qui ne doit pas souvent mettre les pieds sur terre battue. Le forfait de Gaël Monfils et cette qualif en moins de 2 heures. Il va affronter dans 2 jours le vainqueur du match entre Cerundolo et Taylor Fritz. Et on aura une équipe sur le Lenglen pour surveiller l'entrée sur le court de l'Américain après son petit
il va être bien accueilli celui-là cet après-midi.
Oui,
je pense,
ça peut être sympa, surtout si les spectateurs ont bu un peu de bière avant.
Oui, c'est vrai que ce que tu nous racontais ce matin, c'est désormais il y a des comptoirs.
Il y a seulement un self-service et il y a des petits hommes qui se baladent dans les allées, tu sais, avec une sorte de sac à dos dans lequel il y a de la bière. Ah oui, non, mais à Roland, on
a appris
les techniques de merchandising des States.
Ah, ben dis donc, ça promet. Ça va être beau avec la chaleur et tout, ça va être magnifique. Ouais. À tout à l'heure, Eric. Pour
ça remplace des glaces.
Oui, moi, je préférais. Il y avait les marchands de glace, ou alors il y avait les fameuses fraises à la crème, mais ça, c'est à Wimbledon. Tu iras bientôt dans quelques semaines. 15h18 sur RMC. Vous le savez, ce soir, ce sera la fin de la saison de Ligue 1 avec beaucoup de matchs, évidemment. Évidemment, tous les matchs qui sont programmés à la même heure. Et parmi toutes ces rencontres, alors c'est pas l'enjeu sportif qui nous intéresse, mais l'enjeu en termes de sécurité publique dans ce match qui va opposer l'AC Ajaccio à l'Olympique de Marseille. Les supporters marseillais qui sont arrivés en masse en Corse hier soir, et il y a eu pas mal d'incidents au point qu'à un moment donné, eh bien le maire de la ville, ou le préfet plus exactement, avait demandé à ce que le match soit annulé. On va faire le point avec Pierre Thévenet qui suit l'affaire depuis Potrominé, depuis ce matin très tôt. Salut Pierre.
Salut Christophe, salut à tous.
Alors, qu'en est-il de ces supporters? Est-ce qu'on a réussi à les canaliser? Où sont-ils? Ils sont à la plage, je pense qu'eux aussi doivent boire quelques petites bières là pour se redonner un peu de force avant le match.
Peut-être qu'ils boivent des bières, en tout cas ils sont parqués sur la plage du Ricanto et ils sont surtout surveillés de très près par les policiers. Ils n'ont pas le droit de quitter cette plage. Il y a eu un arrêté préfectoral ce matin leur interdisant tout simplement de rentrer dans la ville d'Ajaccio, donc ils seront parqués là-bas toute l'après-midi. Sont arrivés à 200 à peu près ce matin. Tous les autres vont rejoindre dans le cours de l'après-midi. Ils seront 600 à peu près ce soir de supporters marseillais. Donc ils vont rester sur la plage tout l'après-midi. Et ensuite, les policiers vont les escorter de la plage jusqu'au stade François Coty. C'est une plage justement qui est située à proximité de ce stade. Et à ce moment-là, il va y avoir plusieurs zones un petit peu sensibles. D'abord, ce trajet qui peut ne se faire que via une seule route. Donc on peut craindre déjà des affrontements sur cette route avec les supporters corses. Puis le match en lui-même, parce qu'on sait qu'il y a une grosse communauté marseillaise aussi en Corse, une communauté de supporters marseillais. Donc le stade va être assez divisé, et quand on voit les incidents qu'il y a eu hier en Ligue 2, notamment à Bordeaux, on peut craindre ce match aussi. Et puis il y aura aussi, et c'est ce que craint beaucoup les forces de l'ordre, la nuit qui va suivre, puisque
parce que là, ils les ramènent pas à la plage.
Non, non, non,
dormir.
Ils n'ont pas les ramener à la plage pour dormir. Et les Marseillais ne rentreront à Marseille que demain soir.
Ah oui, il n'y a pas de ferry ce soir.
Il n'y a pas de ferry ce soir, donc ils vont passer la nuit dans la ville. La plupart d'entre eux n'ont pas de logement. Et il y a en parallèle la fête des pêcheurs en même temps. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de monde dans les rues d'Ajaccio, à la fois des Corses pour ces festivités et à la fois des Marseillais après le match. Donc voilà, il y a ce moment qui risque d'être sensible pour les forces de l'ordre également.
Et on rappelle qu'il y a eu de gros affrontements hier soir, Pierre. Hein, c'était chaud.
Il y a eu des affrontements hier soir, alors qu'il n'y avait que quelques dizaines de Marseillais. C'est ça aussi qui fait craindre le pire aux autorités. Ce sont des supporters corses qui sont arrivés, un petit groupe de supporters corses cagoulés qui est arrivé à l'hôtel où certains supporters marseillais résidaient. Il y a eu des premiers affrontements dans la rue qui se sont poursuivis plus loin dans le centre-ville. Le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbradia, voulait depuis longtemps interdire le déplacement de ces supporters marseillais qui ont été autorisés parce qu'il n'y a pas d'animosité particulière historique entre Ajacciens et Marseillais. Mais au final, voilà, les faits d'hier lui ont plutôt donné raison. Il a tenté ensuite d'interdire, d'annuler tout simplement le match. Mais voilà, maintenant, les supporters marseillais sont arrivés à Ajaccio. Et donc, le choix a été fait de les garder sur cette plage sous les yeux des policiers.
Très bien. À surveiller, évidemment, notre envoyé spécial, Florent Germain, nous dira tout à l'heure. Le coup d'envoi des matchs, c'est 21h ce soir.
C'est 21h.
Merci, Pierre, pour toutes ces infos donc, concernant ce match ce soir entre Ajaccio et l'Olympique de Marseille. Il y a également du basket cet après-midi. Ben oui, nous sommes là aussi dans les phases finales du championnat Betclic Elite, les demi-finales avec ce match 3 qui a débuté il y a quelques instants entre Bourg-en-Bresse et Monaco. Match que suit pour nous Maxime Thillet. Salut Maxime.
Salut Christophe, bonjour à tous. Oui, c'est parti depuis 3 minutes 30 et c'est Monaco qui est en tête pour le moment. 10-4, Monaco qui mène d'ailleurs 2-0 dans cette série après avoir remporté les deux premiers matchs à domicile en principauté. Plus qu'une seule victoire pour la Roca Team et pour rejoindre eh bien ces finales du championnat de France. Les Bressans, eux, doivent réagir hein, s'ils perdent ce soir le dernier match de leur saison. Mais ils savent le faire. Hein. Ils ont battu deux fois cette saison l'AS Monaco en saison régulière. Donc il va falloir rééditer l'exploit pour eh bien poursuivre l'aventure et pourquoi pas aller réaliser l'exploit et renverser cet AS Monaco. Mais pour le moment, eh bien les Monégasques sont mieux partis. 11-4 pour Monaco après 4 minutes.
Merci Maxime, à tout à l'heure. 15h22, on retourne à Jean Bouin avec les Racing Men qui ont ouvert la marque en deuxième période. Hein. Ce sont les premiers à avoir inscrit des points dans cette deuxième mi-temps. Julien Richard, Pierre Abadan.
Oui, 8 minutes de jouer en seconde période, 20-17 pour le Racing 92. C'est cette pénalité de Finn Russell donc, qui a permis aux Franciliens de reprendre les commandes dans ce derby, dans ce premier barrage pour affronter le Stade Toulousain vendredi prochain à 21h05 à Anoeta. Pierre, ce que l'on se dit sur ce début de seconde période, c'est que le temps va peut-être être long physiquement. On voit déjà des joueurs un peu fatigués. Il fait chaud, on le répète, et la fin de match a laissé aussi, la fin de la première mi-temps a laissé un peu des traces. Enfin, en tout cas, on voit des joueurs un peu cuits. Et on voit beaucoup de jeux au pied.
Alors plus de Parisiens, me semble-t-il, que de Racingman qui sont empruntés physiquement, et notamment la première ligne hein, qui a beaucoup donné en fin de première période. Et on revoit un peu le scénario du début de la première mi-temps, c'est-à-dire un Racing qui met la main sur le ballon, qui est plus serein dans ses choix, qui fait les meilleurs choix de jeu au pied et qui pour l'instant semble reprendre un peu la possession, même si là le lancer en touche n'est pas réussi. Voilà, on va voir comment ça va s'installer sur la durée, mais le Stade français, ils sont plutôt dans la même dynamique de la fin de la première période. Il va falloir qu'ils retrouvent des nouvelles ressources s'ils veulent repasser devant le Racing.
D'autant que cette fois, ça y est, le Racing 92 est à 15 puisque les deux cartons jaunes, les deux fois 10 minutes se sont écoulés. Donc de nouveau en supériorité numérique dans cette rencontre à 15 contre 14 depuis l'expulsion, on le rappelle, de Marcos Kremer, le troisième ligne argentin du Stade français en tout début de match, à auprès 5 minutes à peine de jeu. Mêlé pour le Stade français dans sa moitié de terrain, dans ses 40 mètres, qui va peut-être leur permettre de se dégager après 10 minutes en seconde période. Christophe, 20 pour le Racing et 17 pour le Stade français.
Ok les garçons, à tout à l'heure, il est 15h24 sur RMC, on se retrouve dans un instant pour la suite de ce match, 20-17 donc pour le Racing et pour la suite évidemment de la journée à Roland-Garros. On va également parler de Formule 1 puisqu'à partir de 16h vous pourrez suivre les qualifs du Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Jean-Luc Roy est déjà en studio pour nous parler de cet événement. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport,
Christophe Cessieux.
15h29 sur RMC l'intégral sport, le rugby, le tennis, un peu de basket également et puis de la Formule 1 à partir de 16h avec les qualifs du Grand Prix d'Espagne. On va faire le point sur tous ces événements. On commence par le stade Jean Bouin où c'est serré entre le Stade Français et le Racing. Les deux équipes étaient revenues à égalité à la mi-temps et le Racing qui se détache petit à petit dans cette deuxième période. On rappelle qu'ils sont à 15 contre 14. Julien, Richard et Pierre Rabadan.
Et Finn Russell qui enquille les pénalités, qui commence à faire mal à cette équipe du Stade Français. 26-17 avec cette nouvelle pénalité de Finn Russell et surtout encore de l'indiscipline et un carton jaune pour Baptiste Pesenti. Il y avait plusieurs joueurs du Stade Français qui étaient en position de hors-jeu et l'arbitre a pris le premier, en l'occurrence Baptiste Pesenti, et il lui a collé un carton jaune. Pourrait qualifier de sévère peut-être, en tout cas à 13 contre 15 désormais pour 10 minutes encore les Parisiens.
Avec 9 points d'écart maintenant au tableau d'affichage, ça se corse vraiment pour les Parisiens, mais on va voir s'ils ont une capacité comme ils nous l'ont montré en première mi-temps. Mais pour l'instant, rien à dire sur le début de seconde période. Le Racing a repris le contrôle du ballon, les initiatives, et les Parisiens qui subissent et qui engrangent les points. Voilà, donc maintenant il va falloir aller chercher un supplément d'âme pour s'ils veulent inverser à nouveau la tendance.
Allez, 26-17 donc le score, la rentrée d'Antine Emery à la place de Ibrahim Diallo côté Racing 92 et une touche pour les Franciliens dans leur 22 mètres. Attention, le mauvais lancé et ça a été récupéré par Parisien, mais l'arbitre, et vous allez entendre siffler Jean Bouin, qui pénalise les joueurs du Stade Français, qui pénalise l'alignement Pierre Parisien.
Oui, apparemment le couloir n'a pas été respecté et ça a amené Finn Russell qui marche sur l'eau au niveau du jeu au pied. Il est impeccable, trouve une touche de presque 50 mètres. Ouais. Et effectivement, les Parisiens qui sont sanctionnés alors qu'ils avaient plutôt bien lu le contre la touche du Racing, et c'est, je crois que c'est Koumakalou qui est sanctionné. Et vous le disiez tout à l'heure, de l'indiscipline, on a vu Baptiste Pesenti prendre un carton jaune. Alors nous, d'ici, très honnêtement, j'ai pas compris pourquoi, mais il y a sans doute une raison légitime pour le corps arbitral.
Allez, touche pour le Stade Français. On a complètement changé puisqu'on est cette fois dans la moitié de terrain du Stade Français, quasiment sur la ligne des 22, des joueurs parisiens qui vont maîtriser ce ballon sur cette prise de balle en touche, mais derrière un malmené sur le ballon porté, faut le sortir ce ballon, voilà qui est fait. Arthur Coville, le dégagement très haut dans le ciel parisien, mais à la réception, eh bien les joueurs du Racing 92, Donovan Taoufifénoua qui a franchi la ligne médiane avec le ballon pour Antoine Gibert qui est entré au poste de demi de mêlée. C'est Gaël Ficou maintenant qui va se saisir du ballon. La chandelle, c'est un peu désordonné tout ça et c'est récupéré par les Parisiens. Il y aura même un avantage en cours. On est sur la ligne médiane. Le jeu qui peut se poursuivre avec Arthur Coville. La longue passe pour Ward. Allez, c'est bien fait. Dakouaka. Le ballon qui réussit à passer. On est dans les 22 mètres et le joueur du Stade Français qui va être repris. On est à 10 mètres à peine de la ligne en but du Racing 92. Ballon toujours vivant pour les Parisiens. C'est Koumakalou. On allonge les passe maintenant et on va se retrouver avec la défense du Racing qui est bien montée, le conteste, mais les Parisiens qui vont maîtriser ce ballon. C'est compliqué là sur le ruck. Allez, le ballon avec Arthur Coville, maintenant ça slalom avec Sekou Makalou, maintenant à rater, passe sur une passe sur la ligne des 22 mètres du Racing 92. On ne progresse pas trop la Pierre
Voilà, ils sont bien coffrés Sekou Makalou. Il y avait du monde à l'extérieur.
Et pénalité pour le Racing, voilà. Puisque
c'est mêlé.
Il y en a un avant.
Ballon enterré, je pense, par Sekou Makalou, qui est sonné, mais qui a été bien plaqué sèchement.
Ouais, et qui peine à se relever.
C'était une grosse occasion pour le Stade Français là, de marquer un essai. Il y avait un surnombre extérieur.
Dommage.
Mal géré.
Donc mêlé à suivre pour le Racing 92 dans ses 22 mètres. 58 minutes de jeu ici à Jean Bouin. Toujours ses 9 points d'avance pour le Racing 92 avec 3 pénalités inscrites en seconde période de Finn Russell qui permettent au Racing d'être devant
dans
ce match. Et pause fraîcheur là, de une nouvelle. Et on rappelle, le Racing a 15 contre 13 Parisiens pour encore 6 minutes.
Ok, petite pause fraîcheur et réhydratez-vous messieurs, faites attention à vous. Le tennis, Eric se réhydrate, on l'a compris, à la bière aujourd'hui.
Non, pas du tout. Non, pas, il faut être sérieux. On a plusieurs rencontres à suivre en même temps, donc il faut vraiment être très vigilant. Sur le central, c'est parti pour Isa Świątek, la numéro 1 mondiale, qui est opposée à Zinyu Wang. Alors c'est marrant parce qu'il y avait Zinyu Wang face à Caroline Garcia, mais c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Je vous rassure, il y en a une qui était gauchère et celle-là elle est droitière. Mais je crois qu'elles ont aucun lien de parenté. Le match entre les teenagers tient toutes ses promesses puisque Coco Gauff est en train de réagir après la perte du premier set au tie-break. Elle mène 4-1 dans le deuxième set. Riron est revenu à 2-1 face à Jarry. Kocioric est mené 2-7-0 par Echeverry. Puis je voulais quand même qu'on en parle, Christophe. Puisque ça a été officialisé sur les réseaux sociaux, Rafael Nadal a été opéré, arthroscopie au niveau du psoas. Il en prend pour 5 mois.
Cinq mois.
Eh ouais, il ne reviendra pas sur un. C'est comme ça qu'on interprète sa communication. Ça veut dire que c'est quasiment fin de saison et il lui restera peu de temps éventuellement pour retrouver la forme et préparer l'Open d'Australie. Donc vraiment, c'est un nouveau coup dur pour l'Espagnol qui fête en plus son anniversaire aujourd'hui.
Dans un lieu d'hôpital, c'est sympa.
Absolument.
Voilà. Et ben, voilà. Malheureusement, on
le souhaite parce qu'on est quand même chez lui, hein. C'est son jardin, quoi.
Évidemment, il nous manque, Rafa, dans ce tournoi de Roland Garros, même si c'est excitant, évidemment, de savoir qui va lui succéder, dans quelques jours. Très bien, Eric, on revient vers toi dans un instant, mais effectivement, Andreeva a l'air de souffrir dans cette deuxième manche. Gauff a resserré son jeu après avoir perdu la première manche. Le rugby avec les Parisiens à nouveau en infériorité numérique, en double infériorité numérique maintenant, hein, messieurs. Julien, Pierre, ils sont là.
On est là. On avait oublié de couper le micro, de le rallumer, pardon. Mais effectivement, double infériorité numérique avec un carton rouge pour Kremer en début de match et puis un carton jaune de Baptiste Plaisantier. Et le Racing, là, 15 contre 13 qui reprend l'ascendant, on vous l'a dit, 9 points d'écart. Et ici, Finn Russell qui distribue, qui régale pour l'instant dans ce match au pied avec vraiment il l'avait dit hein, avant le match sur la confrontation avec Joris Segond, il va falloir que je sois bon dans mon jeu au pied. Ben, pour l'instant il l'est et il permet au Racing de mener sereinement parce qu'ils sont en double supériorité numérique pendant encore quelques minutes.
L'heure de jeu franchie à Jean Bouin dans 30 secondes maintenant et donc 9 points d'avance, 26-17 pour le Stade Français face au Racing. Et pour le Racing face au Stade Français, c'est dans l'autre sens.
À tout à l'heure, le basket avec le match 3 de la demi-finale de Betclic Elite entre Bourg-en-Bresse et Monaco. Bourg-en-Bresse qui est dans l'obligation, Maxime Thiet, de s'imposer aujourd'hui face à Monaco. Bon, enfin, il y a quand même une ou deux classes d'écart entre les deux clubs.
Ouais, hein. Ouais, là, cet après-midi, ça se ressent, cette classe d'écart. Monaco fait la course en tête. Bon, à la fin du premier carton, 7 points d'avance. Il reste encore 30 minutes à jouer. Mais c'est bien Monaco qui mène 24-17 sur le parquet de Bourg-en-Bresse. La JL qui est en panne d'adresse. 1 sur 7 seulement à 3 points pour les Bressans dans ce premier carton. Ça fait donc 17-24 en faveur des Monégasques.
Merci Maxime. 15h37, c'est l'heure du Quintet. On y va tout de suite. C'est à Auteuil que ça se passe cet après-midi. Et c'est avec Frédéric Kita. Salut Fred.
Salut Christophe, salut à tous. Effectivement, les concurrents sont dans ce Quintet Plus à peu près à 600 mètres de l'arrivée. C'est toujours le numéro 8 qui est en tête, Uric Desobo. À noter quand même la chute du favori, le numéro 4, Champagne Mystery. Donc c'est le numéro 8 qui est en tête. Donc Uric Desobo devant l'As, Philop. Et le numéro 7, Toscala du Berlay qui sont en bonne position. Il reste 500 mètres à parcourir. Il rentre dans la dernière ligne droite et avec l'avant-dernier obstacle qui est à franchir et c'est le 8 qui le saute en tête, Uric Desobo devant l'As Philop qui est très bien placé également et on a Toscala du Berlay qui est en 3e position devant le numéro 12 Mandarin Bosque, la dernière difficulté du parcours qui va être franchie à l'instant en tête par l'As Philop, l'expert de ce parcours qui a pris la tête devant notamment ce numéro 8 Uric Desobo qui commence à craquer un petit peu pour la victoire même s'il se relance, c'est toujours l'As Philop qui a l'avantage devant le numéro 12 Mandarin Bosque qui termine très très vite son parcours mais c'est l'As Philop qui va certainement franchir le poteau en tête. Oui, garde un minime avantage devant le numéro 12 Mandarin Basque. Donc la victoire pour Philop qui restait sur un succès sur ce parcours. Il adore vraiment ce parcours particulier du steeple chase d'Auteuil. Il s'impose donc assez facilement, même s'il a été attaqué tout à la fin. C'est donc Philop Las qui s'impose devant le 12 qui était à 13 contre 1, le numéro 12. Et la troisième place pour le numéro 7 Toscana du Berlay. Et ensuite on a le 8 Uric Desobo qui conserve la quatrième place de ce Quintet Plus devant le 6 haute idée. Je récapitule à l'arrivée provisoire du Quintet. L'As devant le 12, le 7, le 8 et le 6.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
15h39, merci Fred. La petite américaine finaliste l'année dernière, Coco Gauff, vient de réagir. Eric Salio en portant la deuxième manche face à Andreeva.
Oui, absolument. Sur le score assez sec de 6 jeux à 1, c'est pas forcément étonnant parce qu'on a perçu chez la jeune russe des petits signes de nervosité avec des. Elle a lancé une balle dans le public. Elle aurait pu d'ailleurs prendre beaucoup plus cher qu'un simple avertissement. Donc, ouais, elle est un petit peu nerveuse. Faut qu'elle se méfie. Bon, vous me direz, elle a que 16 ans, hein. Mais on va voir comment elle va gérer le début de cette troisième manche parce qu'en face, Coco Gauff a repris la confiance, comme on dit. Donc, troisième set à haute tension à venir sur un court Suzanne Englen plein à craquer.
Ok Eric, à tout à l'heure. Le temps, le score à Jean Bouin, l'heure de jeu a été dépassée. On en est à 62e, Julien.
Oui, 62 minutes et 30 secondes de jouer à Jean Bouin. 26 pour le Racing 92 et 17 pour le Stade Français. 9 points d'avance.
Très bien, il est 15h40 sur RMC. La suite évidemment de ces événements dans quelques instants. Et puis Jean-Luc Roy pour évoquer les qualifs du Grand Prix d'Espagne. Fernando Alonso va-t-il réussir un coup aujourd'hui chez lui en Espagne? On en parle dans un instant.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
Il est 15h43, ça se rapproche, la fin de match se rapproche et la qualification pour la première demi-finale du top 14 sera pour le Racing ou pour le Stade Français. Il y a 9 points d'écart en faveur du Racing avec les Parisiens du Stade Français qui viennent de faire entrer un maître aboyeur, un certain Morgan Parra, messieurs. Hein.
Ouais, 66e minute de jeu, donc c'est 9 points d'avance, 26 à 17 en faveur du Racing 92 et l'entrée de Morgan Parra pour peut-être le dernier match de sa carrière. Pierre, puisqu'il raccroche les crampons à l'issue de cette saison et le Stade Français est en mauvaise posture pour l'instant. Grosse acclamation de Jean Bouin pour l'entrée de Morgan Parra et les Parisiens sur un temps fort là, peut-être avec Ward dans l'entrée des 22 mètres qui slalom les crochets, il est pris, stoppé, Morgan Parra qui peut relever ce ballon, c'est bien fait, mais Joris Segond est pris à la gorge là directement. On est face au poteau dans les 22 mètres du Racing 92, le ballon pour le Stade Français avec une nouvelle fois la charge à l'entrée de la ligne des 22 mètres. Nouveau temps de jeu avec la longue passe de Joris Segond. Ward une nouvelle fois maintenant avec un raté, le petit coup de pied mais il est contré et ce ballon va sortir contré par Warwick Gaëlant rentré à l'arrière.
Là, on cherche les solutions à un côté parisien pour franchir cette défense hermétique, hein, on les voit à 93% de plaquage réussi pour le Racing contre 76 seulement pour le Stade Français. Et pour l'instant on a du mal, hein, quand même, on a du mal à trouver la largeur. Donc on vient de taper dans cette défense du Racing qui est costaud et qui pour l'instant empêche les Parisiens de trouver des solutions. Alors c'est vrai, on attend beaucoup évidemment de Morgan Parra vu le contexte et vu le talent et l'expérience du joueur, mais il va falloir être plus dangereux en attaque. On a vu Léo Barré aussi qui est rentré mais à la place de Hamdaoui, ouais. Donc on a gardé pour l'instant l'ossature, j'allais dire côté Stade Français, 10, 12, 13 qui a du mal, hein, face à l'inspiration des Russell, des Gaël Ficou et Henri Chavancier. Et pour l'instant c'est là pour moi, à mon sens, que se joue vraiment le nœud de l'attaque qui pour l'instant est plus dangereuse côté Racing que Stade Français, avec un pack qui domine moins que la première mi-temps, ce qui avait permis au Stade Français de revenir. Pour l'instant toujours 9 points de retard, il reste 13 minutes et il va falloir trouver des solutions peut-être avec le ballon porté à venir sans doute si les Parisiens captent la touche lancée par Pérez Blanc qui va remettre le ballon en jeu dans quelques secondes.
Alors qu'on sent que physiquement c'est dur, hein, et des deux côtés, on a vu des joueurs assis faire quelques étirements notamment, mais pas seulement du côté du Stade Français qui est en infériorité numérique, on le rappelle, côté Racing également. Il y a la touche sur les 22 mètres du Racing, lancé Stade Français en fond d'alignement, c'est Koumakalou qui a allongé les bras pour se saisir du ballon. Il y a un avantage en cours pour les joueurs du Stade Français. Le mol qui progresse un peu latéralement, il est écroulé ce mol. Il y a cet avantage en cours toujours pour le Stade Français. Le ballon est sorti, Joris Segond qui tape au pied, ça ne passe pas, on va donc revenir et on ne cherche pas une solution, hein. Direct on a tenté le coup de pied parce qu'on sent aussi peut-être qu'en attaque c'est assez inefficace.
Ça manque d'inspiration en attaque, même quand il y a alors là il y a un avantage en cours, donc Joris Segond il tente
ouais.
Si jamais ça réussit, il peut amener à un essai avec un petit coup de pied à suivre, mais mal exécuté en tout cas, bien contré par le Racing. Et là, voilà, choix intéressant On n'est plus dans la même dynamique que la fin de première mi-temps. Et donc, du coup, on va prendre les points pour revenir à moins d'un essai transformé. Si Joris Segond passe cette pénalité tout à fait dans ses cordes, ce qu'on rappelle qu'évidemment, c'est un buteur très fiable du côté parisien.
Ouais, l'un des meilleurs buteurs du top 14, excentré côté gauche lorsque l'on regarde les poteaux du Racing 92, quasiment sur la ligne des 22 mètres, largement donc dans les cordes de l'ouvreur du Stade français. Elle est importante celle-là, Christophe, parce qu'il y a ces 9 points d'avance, donc toujours. Alors qu'une Holla tente de se former dans les tribunes de Jean Bouin. Quelques sifflets venus des supporters du Racing qui sont quand même en nombre ici. C'est pas loin forcément le coup de pied de Joris Segond qui prend la direction des poteaux et qui va passer entre les poteaux sans souci. Donc le score désormais 26 pour le Racing, 92, 20 pour le Stade français. Le Racing à portée de fusil du Stade français toujours dans cette fin de match puisqu'ils sont à moins d'un essai transformé maintenant des joueurs du Racing. 26-20 le score à 11 minutes maintenant de la fête Saint-Andron.
C'est chaud, rien n'est fait encore dans ce premier barrage. Le basket, Bourg-en-Bresse-Monaco, c'est le match 3 de la demi-finale avec Maxime Thiette.
Oui, Bourg-en-Bresse qui a toujours du mal à stopper l'armada offensive monégasque. Ça fait 22-32 plus 10 donc en faveur de la Roca Team qui enchaîne les temps de possession notamment grâce à sa domination au rebond principalement offensif. 22-32 plus 10 pour Monaco sur le parquet de Bourg-en-Bresse.
Merci Maxime, à tout à l'heure. 15h48, il vient de nous rejoindre, il est là, il est tout beau. Il va nous faire vivre les qualifs du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 qui débuteront dans 12 minutes maintenant. Jean-Luc Roy est de passage dans le coin. Comment ça va mon Jean-Luc?
En pleine forme. Fort bien.
Beau comme un astre, il est magnifique. Une chemise très sobre, je remarque quand même.
N'est-ce pas? Hein, je savais que ça te plairait.
C'est ta vie à Miami qui te fait
le bleu ciel.
Tu es rentré dans la sobriété. Jean-Luc, Grand Prix d'Espagne, oui. Évidemment. Alors, grandissime favori, Max Verstappen, comme il l'est à chaque Grand Prix. Oui. Mais c'est évidemment un Grand Prix très particulier pour Fernando Alonso, qui nous régale depuis le début de la saison avec son Aston Martin et qui rêve de s'imposer chez lui, chose qu'il n'a plus fait depuis très longtemps. Fait un moment qu'il est là aussi.
Ça fait un sacré bout de temps qu'il est là, effectivement. Déjà la pole, ça remonte à 2006, la dernière pole position qu'il a signée, lui, en Espagne. Donc tu vois que c'est pas d'hier. Et puis, au niveau des victoires, c'est pareil, il faut remonter à 2013. Pour retrouver une victoire de Fernando Alonso. Donc, c'est pas évident. Maintenant, on peut tout attendre, d'autant que la météo s'en mêle. C'est-à-dire que lors de la troisième séance d'essai libre tout à l'heure, la pluie s'est invitée. Donc, tu sais, dans ces cas, une pluie moyenne, on va dire. Donc, les pilotes ont sorti des pneumatiques intermédiaires. Ça veut dire qu'évidemment, tu sais, le système de qualification, tout dépend à quel moment ça tombe. Bon, on peut faire confiance, comme toujours, à Verstappen qui se sort de ses pièges magnifiquement. Mais Fernando Alonso, totalement soutenu par le public, pourquoi pas déjà une pole. Et déjà, ça pourrait changer la configuration du
Grand Prix. Oui, parce qu'on sait qu'il est redoutable sous la pluie. Il a toujours été très bon.
Ouais. Ah oui, c'est un domaine qu'il aime bien. Puis bon, je te dis, il y a quand même le surcroît de motivation avec le circuit et puis l'Aston qui bénéficie elle aussi de nombreuses améliorations. On peut dire que Monaco, c'était, je vais pas dire un coup pour rien, mais au niveau de toutes les améliorations techniques, y compris pour Mercedes d'ailleurs, tu sais que la part du pilote dans le résultat est beaucoup plus importante à Monaco qu'ailleurs. Là, Barcelone retrouve un circuit sur lequel les pilotes et
ils le connaissent par cœur en plus ce circuit.
Ouais, exactement, ils ont leur référence. Alors pas cette année malheureusement. Non, d'accord. Voilà. Mais ils ont quand même leur référence. Ils savent comment il faut régler la voiture.
Un petit mot des Français, des Alpines notamment. Bon Grand Prix de Monaco pour Esteban Ocon. On espère qu'il va briller à nouveau aujourd'hui, enfin ce week-end.
On l'espère vivement. La première séance d'essai libre, ils avaient très très bien roulé. Esteban, troisième temps et Pierre Gasly, cinquième temps. Donc c'était vraiment super. Cinquième temps dans la deuxième séance également pour Esteban Ocon. Dixième temps pour Pierre Gasly. Bon là, c'était un poil moins bien dans la troisième, mais c'est pas très grave parce que on a travaillé avant tout pour la course. Et puis comme je l'ai dit, la séance a été perturbée par la météo. Donc on peut les attendre comme là, allez, quatrième ou cinquième force du plateau, ce qui est déjà très bien. C'est-à-dire faudrait être dans la Q3, tu vois, dans le top 10.
Il y a pas mal d'écuries qui ont fait des changements, qui ont apporté des nouveautés aux voitures. On pense notamment au Mercedes. Est-ce que ça peut leur permettre de franchir un gap, Jean-Luc?
Complètement. C'est ce qu'on attend, évidemment, Hamilton, là, qui a été rapide dans la troisième séance d'essai libre. Il fait le troisième temps. Bon, à confirmer, naturellement. Bon, je pense que les Red Bull vont rester intouchables. Et puis Ferrari, n'oublions pas Ferrari, parce que, comme l'a dit Fred Vasseur, le patron de l'équipe, cette voiture n'est pas mauvaise du tout. Quand on se retrouve à moins d'un dixième de la pole à Monaco, et puis bon, on sait que Charles a également signé une pole quand même depuis le début de la saison. C'est le seul à avoir été capable de venir interrompre la marche triomphale des Red Bull. Donc il y a du potentiel. Ça peut se révéler là, comme ils ont amené plein de trucs, un fond plat, les ailerons, les moustaches, enfin tout a été revu. On va voir. Là c'est vraiment le jeu. juge de paix là.
Eh ben, on va se régaler avec toi, les qualifs. C'est donc dans 10 minutes à partir de 16h. Le Grand Prix demain à 15h. On sera ensemble pour le vivre sur RMC. Merci, mon Jean-Luc. À tout à l'heure. 15h52. Toujours ce score de 26-20 pour le Racing face au Stade Français. Il reste moins de 9 minutes à jouer. On va vivre la fin de match dans un instant sur RMC avec Pierre Abadan et Julien Richard qui sont à Jean-Bouin. Et puis, on ira également à Roland-Garros. À tout de suite.
RMC. Intégral Sport.